Et c'est parti pour cette dernière heure de Brazos Pluriel. Invité en direct, Audrey Lecorne et Julien Cuvilliez. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Vous avez un point commun. Attends, il y a un petit souci de micro du côté de Audrey qu'on va entendre dans un instant. Vous avez un point commun, enfin plusieurs points communs. Le fait que vous soyez un couple, mais c'est pas ça qui nous intéresse. C'est que vous intéressez, vous avez une passion commune. Qui est-ce qui commence ?
La lyre.
Eh ben voilà. Donc effectivement. Alors on a eu l'occasion déjà il y a quelques mois d'entendre Julien. Julien était venu, c'était en janvier dernier. Tu étais venu pour nous parler. On a eu l'occasion aussi, également de faire un reportage chez vous à Quimper, dans l'atelier Scal, là où vous fabriquez donc les lyres. Et puis là on vous retrouve parce qu'il y a une actualité. Il y a un truc qui se passe, qui commence aujourd'hui. En rapport avec la lyre. Julien, un petit mot.
Tout à fait. C'est la conclusion en fait d'un projet qui s'est déroulé sur les trois dernières années et qui a réuni 40 acteurs de projet, 15 partenaires répartis sur 4 pays, qui s'appelle le projet LEIA.
Alors c'est quoi LEIA ?
LIRA, Experience Innovative Acoustics.
Alors LIRA, ça doit vouloir dire lire, ok.
Tout à fait. C'est un projet qui vise justement à s'intéresser à un chevalet de lyre. Donc c'est un objet que l'on retrouve sur la plupart des cordophones et qui permet aux cordes d'entrer en contact avec la table d'harmonie. Donc ce chevalet a été découvert au siècle dernier dans une sépulture mérovingienne et c'est un objet qui est tout à fait unique. Il est en bronze et il est conservé actuellement au musée archéologique de Cologne dans les réserves à l'abri des regards. Donc on lui a consacré toute une étude, tout un travail avec une équipe pluridisciplinaire afin de pouvoir comprendre comment il était réalisé, à quoi il pouvait bien servir et enfin le reconstituer pour le mettre à l'essai sur un véritable instrument et voir un petit peu ce que cela donne. Voilà.
Alors qu'est-ce que ça donne finalement ?
Eh bien, ça fonctionne très bien.
3 ans de boulot avec plein de monde, plein de partenaires, plein de gens, etc. Donc il faut effectivement que ça donne quelque chose.
Eh bien, ça fonctionne bien parce que l'idée c'était justement de voir ce qu'il en était puisqu'on a retrouvé très peu de chevalets de ce type-là. Et faut savoir qu'il y a de nombreux objets que l'on peut découvrir ainsi dans des sépultures et qui sont des objets qui n'ont pas forcément de place dans le quotidien, qui sont réalisés dans un cadre funéraire en qualité d'offrande pour accompagner le défunt dans l'au-delà et qui peuvent être des ornementations, qui peuvent être des choses assez symboliques. Donc il restait encore cette question, est-ce qu'il a une place usuelle dans une dimension musicale ou est-ce que c'est simplement un attribut qui a été mis pour accompagner un personnage qui pouvait vraisemblablement être un musicien ? Alors pour répondre à cette question, là, bah, il fallait l'essayer. Mais bien sûr, on n'allait pas faire ça avec l'objet original.
Réel, donc, bien sûr, ouais.
L'idée a été de le reconstituer et pour ce faire de façon la plus fidèle possible. Donc il a fallu identifier sa composition exacte. Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, il est en bronze. Donc c'est un alliage. Donc le bronze qui est donc généralement un alliage qui réunit du cuivre et de l'étain. Alors il a fallu déterminer dans quelle proportion et puis voir s'il n'y avait pas d'autres composants comme on en trouve parfois, tels que de l'arsenic par exemple ou tels que de l'antimoine.
De l'arsenic ?
Tout à fait, oui. Qui est utilisé parfois donc dans la composition. Position du bronze, voilà. Donc, à partir de tout ça, il a fallu donc le déterminer. Alors, traditionnellement, ce qu'on fait pour connaître la composition d'un objet, eh bien, on va en prélever un petit morceau et puis on va le soumettre à différentes analyses. Mais aujourd'hui, les nouvelles technologies nous permettent d'avoir des alternatives, en fait, à ces processus qui sont destructifs. Un petit peu dommage, puisque pour connaître une chose, on est souvent parfois obligé de la dégrader, voire de la détruire, ce qui est un petit peu
contre-sens. C'est quoi ces nouvelles technologies qui ont permis d'éviter de dégrader l'objet ?
Alors, c'est une technique combinatoire, c'est-à-dire que pour répondre à une inconnue, on est passé par différentes analyses qui ont révélé donc différentes constantes. Donc là, en l'occurrence, on lui a fait donc une numérisation 3D pour commencer, qui a permis d'avoir donc une trace de son volume qu'on a mis en relation avec son poids. Donc en gros, le volume d'une chose conjugué à son poids nous donne une information par rapport à sa matière. Donc ça, c'est une donnée. Ensuite, on lui a fait donc ce qu'on appelle une vibrométrie laser. Alors, qu'est-ce que c'est que la vibrométrie laser ? C'est un appareillage en fait qui va exposer un objet à différentes fréquences sonores normées, et en conséquence de quoi, l'objet va entrer en résonance. Et un laser va mesurer le comportement vibratoire de l'objet face à cette exposition-là. Et chaque matière a sa façon de réagir par rapport à ses fréquences normées. Donc grâce à cette fréquence sonore, on peut établir la carte d'identité de la matière de l'objet exposé. De la même manière, avec un spectromètre de masse, donc on peut comprendre la composition d'une chose à partir de sa couleur. Que ce soit quelque chose de microscopique ou même une étoile qui est très lointaine, sa couleur nous donne un indicateur par rapport à sa composition grâce à un spectromètre de masse. Et bien là, c'est le même phénomène, mais par rapport au son. Voilà. Donc, les informations produites par le vibromètre laser et les informations produites par la volumétrie qui a été faite par la numérisation 3D nous donnent des informations qui sont très importantes et que l'on va conjuguer encore avec un dernier relevé qui est donc la conductimétrie. C'est-à-dire qu'on a fait passer un courant électrique dans l'objet qui est un objet métallique. Et en fonction de sa capacité à restituer donc le courant électrique, on peut mesurer également, donc, avoir une indication par rapport à sa composition. Et toutes ces constantes qui ont été données par ces différents relevés, combinées, nous ont permis de pouvoir répondre à cette question, en quoi il est fait exactement et dans quelle proportion. Voilà. Et ce, sans avoir à faire de prélèvement ou à le dégrader. C'est ce qu'on appelle des techniques non destructives, en fait, une approche non destructive. Et il existe encore une autre approche non invasive qui consiste même à ne même pas le toucher. Donc ça, c'est l'avenir, tout simplement, et ce qui est beaucoup plus respectueux de l'artefact, et c'est très bien.
Alors, qui sont les gens qui ont... Parce que toutes ces techniques, il faut avoir un certain matériel, il faut avoir une connaissance, une compétence. Qui est-ce qui a fait ça? On évoquait un bon nombre de partenaires dans cette aventure. Alors, qui a fait quoi?
Alors, je vais en citer quelques-uns. Hein, mais
attention, la mission termine à 18h.
Hein. Tout à fait. Donc, pour ce qui est donc des relevés vibrométriques, ça a été assuré par Romain Viala, qui est donc le directeur du pôle innovation de l'Institut technologique européen des métiers de la musique, donc l'ITEM. Les numérisations 3D ont été faites par le Centre de ressources techniques de Morlaix et la conductimétrie également fait par Romain. Donc ça, c'est pour les analyses. Et donc du coup, tout ce travail-là a permis donc de pouvoir déterminer la composition de la matière. Donc ça, ce sont les partenaires qui ont agi sur le terrain. Et il y en a eu d'autres en amont et encore aujourd'hui pour la suite du projet.
Alors en fait, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe exactement? Pourquoi est-ce que toi, non seulement toi, mais plusieurs personnes, parce qu'il y a également quelqu'un d'autre, Sébastien Salin, qui nous rejoindra plus tard, mais bon, pour des raisons covidiennes et de nombre d'invités en studio, et tranquillement sagement dans le couloir en attendant son tour. Mais donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui justifie votre présence aujourd'hui spécialement ce 15 mai?
Alors, pour faire très court, en fait, on est dans la finalisation du projet. Donc, les données ont été traitées. Nous sommes parvenus à des résultats. Nous avons pu reconstituer donc l'objet et le mettre à l'essai sur un instrument qui a lui aussi été reconstitué suivant un protocole d'archéologie expérimentale, c'est-à-dire on a reconstitué l'objet à partir des moyens, des techniques et des matériaux contemporains de l'époque pour un résultat au plus proche de la réalité historique. Donc à partir de là, eh bien, on a pu donc le mettre à l'essai et voir donc ce qu'il en était, c'est-à-dire vérifier si effectivement c'est un objet qui a été conçu pour une dimension funéraire ou plutôt pour un cadre usuel.
Et oui, si c'est un vrai instrument qui peut...
Et il s'avère que ça fonctionne très bien et les propriétés donc qui ont été donc analysées sont tout à fait propres à un usage musical. Donc fort de ce résultat, eh bien maintenant il s'agissait de le rendre accessible au plus grand nombre par des moyens actuels. Donc c'est là où justement on est rentré dans un processus qui cette fois-ci vise à mettre à l'intention de tous toutes ces données par différents moyens, des publications, des conférences et enfin et surtout par le lancement d'une exposition virtuelle qui a été réalisée par l'entreprise Real Catcher de Camaret.
Voilà, l'entreprise de Camaret, dont justement le fondateur sera avec nous un peu plus tard dans le courant de cette émission, de l'exposition virtuelle qui est inaugurée aujourd'hui, si je veux
absolument
dire. Donc c'est une inauguration, mais sans vin d'honneur ni buffet, forcément, puisque c'est virtuel.
Alors après,
c'est dommage, hein, Audrey.
Après, voilà. Mais il faut savoir, donc, du coup, que l'idée était de tout sortir maintenant, à l'occasion de la Nuit européenne des musées. Et en collaboration avec le Musée royal de Marimont, donc le Musée royal de Belgique, qui nous a commandé donc cette conférence, cette présentation, donc à l'occasion de la nuit européenne des musées. Donc la conférence de présentation qui restitue toute l'aventure a été lancée ce matin à 10h sur les réseaux sociaux. Et on peut la consulter dès maintenant. Et l'environnement virtuel qui a été réalisé par Real Catcher est maintenant accessible par deux moyens, c'est-à-dire par smartphone Android en ligne ou même ordinateur avec des bulles 360, ou alors en téléchargement et avec un environnement 3D, une expérience encore plus immersive. Quoi.
Voilà, puis ça fonctionne, j'ai été vérifié avant pour être sûr. Donc effectivement, elle existe réellement, l'exposition. Parce qu'on dit un truc virtuel, on se dit, ouais, peut-être qu'ils vont essayer de nous arnaquer, peut-être qu'il n'y aura rien. Alors qu'en fait, il y a quelque chose. Qu'est-ce que tu viens de me donner là, Julien? Ah, c'est l'objet?
Oui.
La représentation de l'objet.
La reconstitution.
La reconstitution. Effectivement, l'objet en question. Alors, évidemment, ça, je peux pas. Tiens, Audrey, tu vas nous le décrire. Là, je le tiens. Tiens, je te le passe en main. Décris-nous, effectivement, exactement l'objet dont on parle, là, depuis quelques minutes, mais sans forcément avoir d'idée précise, tant qu'on n'a pas été visiter l'exposition virtuelle, ce qui sera tout à fait faisable, puisque c'est disponible maintenant.
Bah, on a un objet de bronze qui est assez petit, en fait, qui est finement.
Ouais, quelques 2-3 cm à peu près. Hein.
Ouais, c'est ça, à peu près 4 de large. ouais, à peu près 2 cm de haut, c'est ouais. À peu près ça, ouais. Et donc, on a un petit espace, en fait. Donc, en fait, un chevalet ressemble un petit peu à un pont. D'ailleurs, c'est le mot anglais, hein, pour dire chevalet, on dit bridge. Et il y a quelques encoches, du coup, qui en fait dessinent l'emplacement des cordes. Donc là, ils sont au nombre de 6. On a 6 encoches. Et donc, ce qui est intéressant aussi pour nous, c'est qu'en fait, ces encoches vont d'un diamètre assez large à un diamètre plus petit. Du coup, laissant entendre qu'il y avait des cordes graves qui s'installaient donc au début et des cordes plus fines à la fin. Et c'est vrai que du coup, pour l'avoir testé, on se rend compte que, parce que les encoches sont assez fines, que les cordes rentrent vraiment pile poil, en fait, d'une justesse assez incroyable. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Que en haut du chevalet, du coup, il y a aussi 2 têtes de serpents qui sont du coup qui sont dos à dos, en fait. Et donc là, on a vraiment en fait une représentation de l'art mérovingien typique, quoi. C'est ça qui nous permet aussi de.
Mais donc c'est un objet qui effectivement est un objet utilitaire, mais la dimension esthétique aussi est très importante, quoi.
Et là aussi.
Et symbolique effectivement est très important. Bon, on a beaucoup parlé de musique. Si on en écoutait, qu'est-ce que tu as choisi, Julien, pour nous faire découvrir?
Eh bien, on commence par Dragon End of.
Eh ben d'accord. On l'écoute. On se retrouve juste après. 17h23, cet après-midi sur France Bleu, Brice Hizel.
16h-18h, Brice au pluriel, Michel Pagès.
Alors, ce qu'on va écouter là, à l'instant, Julien, commente-nous le morceau de musique qu'on vient d'entendre.
Alors, l'un des résultats en fait de ce travail, c'est que bon, comme tu l'as dit tout à l'heure, l'idée c'est de faire de la musique aussi avec tout ça.
Donc, oui, parce qu'on peut oublier le fait que effectivement la lyre c'est un instrument de musique, donc on peut faire plein de recherches, plein d'études, plein de travaux, mais c'est pas mal aussi d'en faire de la musique.
Et donc du coup, dès lors qu'on a finalisé cette première étape, on a reçu une commande émanant du Musée Royal de Mariemont en Belgique, qui était en train de préparer la sortie de sa nouvelle exposition consacrée au monde de Clovis, et nous a commandé donc une bande originale pour son exposition, qui se voudrait être le reflet des récentes recherches sur la musique mérovingienne de cette période-là. Et donc à partir de là, on a construit toute une composition autour justement de cet instrument. Et pour ce projet-là, j'ai réuni des concertistes de l'Académie royale de Londres, d'Édimbourg, et également des chanteurs de l'Université de Montpellier 3.
Alors tout ça de manière virtuelle en fait, chacun dans son coin. Il y a oublié qu'il y a le Covid quand même.
Ça a été un petit peu le challenge, c'était tout faire à distance. Et ma foi, ils ont fait un travail super. Ils ont été vraiment très très efficaces et on a pu donc construire tout ce morceau-là ensemble autour d'un thème qui propose la rencontre du monde antique et de la période médiévale, puisque sur la période mérovingienne on n'a pas d'informations sur les musiques écrites, donc il a fallu faire un travail de recréation artistique et on a proposé donc la rencontre de la musique antique qui est jouée donc par John Kenny, donc de l'Académie royale d'Édimbourg, avec donc l'arrivée du Carnix qui incarne tout le monde antique sous la forme du dragon, donc le dragon qui agonise, toute cette période de l'antiquité qui va laisser place au Moyen-Âge, qui prendra la forme d'une chanteuse soliste grégorienne, Lou, et qui donc incarnera la colombe dans ce dialogue musical entre le dragon et la colombe, le temps de l'Antiquité, qui laisse place donc à la période médiévale. Et avec au cœur de toute cette composition, la lyre, donc qu'on a reconstitué, et le chevalet de Concevreux dont on parle depuis tout à l'heure.
Alors on évoquait déjà la présence d'un autre invité, cette fois-ci qui a pris sa place cette fois-ci. On l'a tout désinfecté, tout a été fait dans les règles. C'est Sébastien Salin. Bonjour Sébastien.
Bonjour. Merci de m'avoir invité.
Real Catcher. Alors Real Catcher, c'est basé à Camaret. Bon, ça c'est une première information. Et pour le reste, c'est toi qui vas nous expliquer en quoi ça consiste Real Catcher.
Alors du coup, moi je suis spécialisé en numérisation 3D, donc c'est-à-dire que je suis capable de numériser de petites choses comme de très grandes choses et d'optimiser les produits de façon à ce qu'ils soient utilisé par les dernières technologies du moment, c'est-à-dire réalité augmentée, réalité virtuelle, donc c'est-à-dire que je me place comme créateur de contenu numérique. Donc voilà un petit peu les gros traits de la société.
Real Catcher, donc c'est une société que tu as fondée. Il y a combien de personnes à l'intérieur?
Donc je suis tout seul pour l'instant.
T'es tout seul pour le moment?
Oui, tout à fait.
Effectivement, comme donc ça, les décisions sont prises à l'unanimité.
C'est ça, c'est beaucoup plus simple.
Aucun problème.
Mais voilà, c'est en devenir, et puis vu les projets, donc on a des chances de progresser assez rapidement. Donc c'est assez intéressant.
Quel est le parcours pour arriver à exercer cette profession?
Alors,
ta formation, c'était quoi?
Alors du coup, les formations, donc moi je suis un peu autodidacte, donc je suis dans la numérisation 3D depuis 10 ans maintenant. Donc moi j'ai un parcours professionnel, je suis issu du milieu des arts graphiques 2D, donc de l'imprimerie. Quand internet est arrivé, l'imprimerie est tombée en berne et il a fallu un petit peu rebondir, et donc je suis parti sur la numérisation 3D et l'impression 3D, donc il y a 10 ans, en co-créant une société. Et donc voilà, donc à l'heure d'aujourd'hui, voilà, je suis parti et donc j'ai créé ma propre société vraiment spécialisée dans la numérisation et dans l'optimisation des modèles 3D de façon à les rendre très légers et avec une qualité photoréaliste. Donc c'est-à-dire qu'on a des modèles 3D qui peuvent servir de communication pour l'archivage ou d'autres choses comme ça.
Oui, justement, donne-nous des exemples d'utilisation de ce que tu fais en numérisation 3D.
Alors du coup, ça part donc par les basiques, de la rétro-ingénierie. Donc c'est-à-dire qu'on part sur un existant, on le recrée en 3D de façon à le reproduire, donc de la rétro-ingénierie. Et ensuite, ça peut servir pour l'archivage. Donc on a beaucoup de choses dans les musées qui sont enfermées dans des tiroirs. Donc c'est important, je trouve, de montrer tous ces sujets-là au plus grand nombre, en fait. Et donc c'est pour ça que c'est intéressant de les numériser de façon à les sortir qu'une seule fois.
Et éventuellement, s'il s'agit d'une pièce extrêmement... une pièce unique, on va dire. Allez, une pièce unique et fragile, si on la numérise, le public peut en profiter, mais le modèle original, lui, ne court aucun risque, il reste toujours enfermé dans une réserve.
Donc ça permet de mettre en valeur, en fait, des choses qui ont tendance à être cachées au public, en général. Ouais. Donc c'est sur ces terrains-là, en fait, qu'on essaye d'avancer et de proposer des expositions virtuelles, donc en numérisant ces œuvres et en les intégrant dans un espace virtuel de façon à ce que les gens peuvent interagir avec. Donc c'est-à-dire on peut prendre l'œuvre dans les mains, le regarder dans tous les sens jouer de la musique comme Julien nous l'avait demandé pour salir. Donc voilà, pas mal
Attends,
de choses.
Attends, tu veux dire par là que tu as numérisé une lyre et qu'on va pouvoir jouer virtuellement de la musique depuis chez soi devant son ordi?
Du coup, la lyre, alors on n'a pas numérisé la lyre parce que Julien donc il a eu un petit peu de retard, je crois, sur le moment, ce qui fait qu'on l'a recomposé.
C'est ta faute, ça, Julien. Donc, hein.
Voilà,
ça, tu vois bien, tu vas mettre Sébastien de mauvaise humeur.
Mais, comment dire, on l'a par rapport au plan que Julien nous avait fourni, en fait, on a refait de la rétro-ingénierie, donc on a recréé la lyre en 3D et on a inséré le fameux petit chevalet sur la lyre de façon
à le petit chevalet dont on parlait tout à l'heure, effectivement, Audrey nous a décrit.
La lyre. Et donc on l'a mis en valeur en fait dans cet environnement numérique. Et donc maintenant en fait on peut en cliquant sur la lyre dans l'environnement numérique, la lyre arrive et on peut jouer par le biais des touches aux cordes de la lyre, donc avec les accords compris. Et donc ce qui fait que sur son ordinateur, donc tout le monde peut jouer de la lyre, donc qui date de l'époque mérovingienne.
Avec les sons qui ont été samplés à partir de la reconstitution.
Voilà, ça c'est les vrais sons. Ouais.
C'est complètement fascinant ça en fait.
Bah, c'est une lyre interactive. Quoi.
Une lyre interactive. Donc effectivement, quand tu disais interactivité, c'est réel. Quoi. Chacun chez soi peut effectivement.
Ouais, c'est virtuel, c'est bien réel.
C'est virtuel, mais c'est réel. Donc on peut créer, composer, jouer sa musique.
Confirme parce que du coup ça marche vraiment très bien, c'est à dire qu'on a vraiment samplé et tous les accords possibles et toutes les notes, ce qui fait qu'avec ton clavier tu peux faire ça et c'est accessible aux grands comme aux petits, puisque je peux te dire que Laura Kegurun il jouait dessus l'autre matin mes petits à moi, ils jouaient dessus l'autre matin et ça marchait super.
C'est des choses qui ne sont pas possibles dans un musée. Si votre lyre serait exposée dans le musée, je ne crois pas qu'on vous autorise à l'utiliser la lyre pour jouer avec.
C'est
vrai que ça apporte un plus, quoi. Et pareil pour le chevalet, vous avez vu la pièce, elle est très petite.
Ouais.
À moins de coller son nez dessus, il va être caché derrière une vitre, donc c'est très compliqué de le voir sous tous les sens. Alors que là, en réalité virtuelle, on peut le prendre, le regarder, donc on le tourner en 3D dans tous les sens. Enfin voilà, on a vraiment l'objet. Déjà finement détaillé parce que la reproduction numérique a été bien faite et ce qui permet donc justement au grand public et à un plus grand nombre de personnes à avoir accessibilité à ce genre d'artefacts.
Le fait de jouer, pour moi, je découvre ça, c'est la première fois que c'est fait comme ça.
Alors je pense que
à ma connaissance, je ne connais pas de lyre interactif comme ça.
De lyre mais d'un autre instrument.
Si ça existe, ouais. Mais pas de lyre du XIVe siècle.
Oui, effectivement, il y a assez peu de lyre du XIVe siècle. Ça fait longtemps que je n'en ai pas vu une.
Moi non plus. Ouais.
on évoque Réal Katcher, le travail de Réal Katcher avec Sébastien Salin, donc qui est le seul maître à bord, on l'a compris.
C'est ça.
Réal Katcher. La numérisation des objets du patrimoine, ça se fait avec des musées de Bretagne déjà.
Alors, c'est déjà commencé ce travail. Voilà, ou pas? On sort d'une période un peu compliquée aussi, comme vous l'avez annoncé. Les musées étaient tous fermés, ça fait un an qu'ils sont fermés. Ouais. Donc c'est un peu compliqué.
Voilà.
Normalement, ça devrait rebondir maintenant, mais c'est vrai que les prises de contact en fait qui ont été faites ont été plutôt bonnes parce qu'ils ont vraiment apprécié les possibilités en tout cas. Donc maintenant, reste à déboucher tout ça sur des projets qu'on espère arriver rapidement.
Et puis on lance un petit peu l'appel, parce que moi je tiens vraiment à saluer l'initiative de musées comme le Musée Royal de Marimont. Je pense encore par exemple au colloque international de Lutry à Saint-Guilhem-le-Désert, qui ont maintenu leurs activités en distanciel avec tout un tas de façons originales, de manière à maintenir les activités culturelles. Je pense au Musée archéologique de Jublin aussi, qui s'illustre sur ce domaine-là, en maintenant des activités dans une période très difficile, et ce qui montre que quand on veut, on peut. Et on souffre quand même d'une certaine absentéisme et d'esprit d'initiative. Je trouve que c'est un petit peu dommage. Et j'espère que on pourra faire force de démonstration que dans cette période-là, on n'est pas forcément dans la résignation, on n'est pas forcément dans la prise de rendez-vous dans 2 ans, quand la tempête Covid sera passée, en laissant les acteurs de la culture en dehors du bunker. On peut faire des choses dans plein contexte actuel. Et la preuve en est, puisque ce projet est transversal. Il marie science, artisanat et art, avec 40 acteurs de projet qui sont scientifiques, artistes, et artisans, et démontre que là, en bout de chaîne, on peut proposer en plein Covid une collaboration qui fonctionne du tonnerre. Donc moi, je lance un appel au musée avec un grand M, mais pourquoi pas des musées plus régionaux, plus proches. Avec des jolis M aussi, mais en disant, on peut faire des choses dans ce contexte-là aussi, et on est à l'écoute de vos projets, et on a des solutions à proposer pour que vous puissiez maintenir le contact avec vos publics. Et de façon innovante, nouvelle et immersive. Quoi.
Voilà, ça a un message qui est drôlement positif, tout ça.
Oh oui.
Allez, on continue à discuter avec nos invités en direct sur France Bleu Brésil dans quelques petites minutes. Tout de suite, c'est Madeleine Anne.
Plus
Ankou, un titre signé Madeleine Anne sur France Bleu Brésil.
L'indécision est totale et le suspense à son comble en Ligue 1 de foot à deux matchs de la fin de la saison. En bas de tableau, surtout pour les clubs bretons, pas encore maintenus, loin de là alors que la lutte fait rage. Le Stade Brestois 14e n'a que 3 points d'avance sur la zone rouge et va une nouvelle fois tenter de valider sa place dans l'élite avec un déplacement à Montpellier. Le FC Lorient 17e, 1 point d'avance sur la zone rouge, s'accroche et peut reprendre de l'air à domicile contre Metz. On suit la passionnante lutte pour le maintien ce dimanche à 21h avec les matchs Montpellier Stade Brestois et FC Lorient FC Metz. Des rencontres à suivre sur l'appli mobile France Bleu, sur notre site francebleu.fr Brésil et sur France Bleu Brésil, la radio officielle du foot en Bretagne.
16h-18h, Braise au pluriel, Michel Pagès.
Alors, nous sommes en direct avec plusieurs invités, notamment d'ailleurs Sébastien Salin de Real Catcher, donc entreprise, nous expliquer en quoi consiste le travail de Real Catcher, l'entreprise basée à Camaret, juste au-dessus du port. Ça y est, je sais tout, tous les détails. Sébastien, raconte-leur comment ça se passe. Là, on a pris un exemple précis, mais au quotidien, le boulot de Real Catcher, ça se passe de quelle manière? Alors, on va prendre une journée de boulot. Si lundi, tu vas reprendre le boulot, tu vas faire quoi et ça se passe comment?
Lundi, là, j'ai plusieurs choses de prévues, c'est-à-dire que, donc, comme j'expliquais, je suis spécialisé en numérisation 3D. Allez. Donc j'ai une antenne sur Rennes aussi, on l'a pas évoqué, mais j'ai des bureaux sur Rennes et ce qui me permet en fait d'avoir un meilleur rayonnement sur tout le Grand Ouest et rapidement sur Paris aussi. Hein, donc voilà. Donc là je travaille en fait avec des galeries qui exposent des œuvres d'art. Et donc là elles ont été mises à mal aussi ces derniers temps. Donc moi ce que je leur propose, c'est ce qu'ils n'auront jamais, c'est-à-dire les galeries de Rennes sont très petites. Donc moi je peux leur proposer des halls d'exposition de 200 mètres carrés s'ils veulent pour exposer toutes leurs œuvres. Donc ce qui fait qu'en ce moment, donc je suis en train de numériser des œuvres d'un artiste de façon à les exposer dans une future galerie qui a été demandée sur Rennes en fait. Donc voilà, donc j'ai ça à faire. Après je récupère aussi des modèles 3D pour les optimiser, c'est-à-dire que les artistes en question, pour en revenir à des œuvres d'art, ne communiquent que très souvent que par des photos. Allez. Et donc moi ce que je leur propose, c'est de communiquer avec un modèle 3D. Donc c'est-à-dire que sur leur page internet ou sur leur publication Facebook ou autre, plutôt que de poster une photo, ils postent un modèle 3D. C'est-à-dire que le modèle 3D est directement en ligne sans téléchargement, sans rien. Donc ça aussi c'est très intéressant. Donc voilà. Et puis après donc on est aussi sur la création de d'environnement virtuel en fait. Pour justement mettre toutes ces œuvres-là en valeur et proposer justement aux artistes d'avoir des expositions permanentes, parce que là on n'est plus tenu sur une date, on a vraiment une exposition qui est disponible 24 heures sur 24 et par tout le monde, dans tout le monde, dans toute la France, voilà. Donc c'est les, voilà, à peu près les grands axes sur lesquels je travaille en ce moment.
Ouais. Alors Sébastien Salin, dans tous les exemples pardon, que tu nous as donnés, tu parles toujours d'artistes, ouais. Tu travailles uniquement dans le domaine artistique?
Alors disons que pour tout ce qui est numérisation 3D, en fait c'est très intéressant. Après on peut travailler sur les bâtiments du patrimoine, ouais. Donc que ce soit des bâtiments à caractère religieux comme des églises, par exemple aussi des ruines d'un éventuel château ou autre, on est capable de numériser les ruines et refaire une reconstruction 3D en fait entièrement sur les ruines comme c'était à l'identique, mais voilà, tout en 3D. Donc voilà, ça touche un petit peu ces milieux-là aussi.
Ouais. Alors, on peut par exemple partir on va prendre l'exemple d'un château, qui est en ruine, on peut le numériser en 3D et lui donner l'apparence de ce qu'il était avant, à l'époque de la construction, c'est à l'époque ça. Où il était entier. Quoi.
Tout à fait. On s'appuie sur les données 3D et on reconstruit le modèle 3D en fait de façon, je vais pas dire artistique, mais au moins sur des bases de données que ce soit des plans ou autres, et on recrée le château à l'identique comme il était avant.
Donc ça nécessite d'avoir quand même un certain nombre de matériel, parce que par exemple les ruines d'un château, on sait pas, on sait s'il y avait une tour ou si on avait deux par exemple, mais on sait pas comment elle s'est terminée la tour, si elle était recouverte de tuiles ou si c'était
il y a beaucoup de gens comme Julien qui sont très doués dans ce domaine-là. Alors là, oui, je vais pas trop m'aventurer.
Il
faut un appui bien sûr, ouais. Un appui de chercheurs ou autres qui sont là justement pour aider dans cette démarche là. Je vais pas inventer des choses.
Enfin, donc, tu peux le faire.
Alors on peut le faire, techniquement on peut le faire. Voilà, l'intérêt c'est de coller au plus proche, donc c'est là que c'est intéressant d'être entouré par des gens qui connaissent en tout cas ce milieu et ces sites historiques en tout cas. Ouais.
Alors tu évoquais la création d'environnements virtuels, ça se passe techniquement, alors techniquement, je sais, c'est la numérisation 3D, mais ça va se passer comment, ça?
Alors du coup, on tombe d'accord avec le commanditaire sur ses besoins. Donc que ce soit donc un environnement fermé, un environnement ouvert, ceux qui veulent exposer à l'intérieur, ceux qui veulent montrer, que ce soit des vidéos, du texte, du PDF, enfin voilà, des informations. Voilà, on élabore un bon cahier des charges, et à partir de ce cahier des charges, en fait, nous on recrée virtuellement, en fait, l'environnement, et on y incorpore toutes ces informations qu'il a voulu transmettre, en fait. Donc voilà.
Et au niveau de la durée, parce que là, on voit le résultat, on voit comment tu procèdes, on voit le résultat, mais au niveau de la durée du temps de travail, c'est ça qu'on a du mal à imaginer.
Alors la durée du temps de travail, en fait, c'est assez aléatoire, hein, parce que en 3D, plus on prend le temps de bien faire, plus c'est beau. Alors que des choses basiques et faites rapidement n'ont pas forcément tout l'aspect esthétique qu'il faudrait. Il nous manque toujours un petit peu quelque chose. Donc c'est vrai que le délai est important, parce qu'avoir un bon timing et surtout toutes les bonnes informations, en fait, dès le départ, permettent vraiment, dès la conception initiale, de savoir où on va et justement de ne pas revenir en arrière sur un projet en rajoutant des modifications, en fait, qui peuvent cela prendre du temps, etc. Donc c'est vrai que le timing, mais sur un projet donc comme Julien, voilà, il a fallu une petite quinzaine de jours pour le réaliser. Ouais.
Une quinzaine de jours, oui.
Ouais, tout à fait. Ouais.
Tout seul, en fait, puisque tu.
Ouais, c'est ça, tout
seul,
à fait. Alors j'ai eu le coup de main quand même parce que donc on était un petit peu serré sur la fin. J'ai eu un coup de main donc d'un collègue qui s'appelle Yann et qui m'a donné un coup de main sur la finalité de la visite proposée par Julien.
Ah bah, je savais bien qu'il y en avait un deuxième dans l'histoire, parce que j'ai été voir sur le site et j'ai vu qu'il y avait un autre visage avec un autre prénom. On essaie de me cacher des choses, mais ça marche pas.
C'est ça.
J'ai enquêté.
Il y a des personnes dans l'ombre.
Ouais, il y a des personnes dans l'ombre. Effectivement. On continue à discuter avec Sébastien Salin. Et puis, Julien Cuvillier, dans quelques instants, là, on écoute. Bah, c'est les Stones, tout simplement, qui vont faire la première partie de Hardard, d'ailleurs. Hein, c'est un scoop. Vous apprenez un instant, radiophoniquement, bien évidemment. Hein. Et on se retrouve après en direct sur France Bleu Brésil.
Thank you.
Les Stones, bien sûr, ce samedi après-midi sur France Bleu Brésil.
16h-18h, Braise au pluriel, Michel Pagès.
Alors, on est en train de parler de projets autour, de choses qui sont déjà réalisées autour de l'ailleurs. Aujourd'hui, bon, c'est un jour particulier, on peut enfin visiter l'exposition virtuelle. Qu'est-ce qu'on voit? Un petit mot, Julien. Alors, je sais qu'on peut voir, toi, par exemple, pour ceux qui n'ont jamais vu le visage de Julien, on dirait un viking. Hein, et d'ailleurs, sur le site, on le voit comme ça, effectivement, avec de très 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 longs cheveux. C'est le viking de Quimper, en fait.
Hein, le viking de Quimper.
Le seul viking de Quimper.
Tu sais que ma grand-mère s'appelait Ulbrek, hein, qui vient de Ulbrecker en danois, qui veut dire casseur de vagues. Donc bon.
Ah bah voilà.
Ça, une vieille famille.
Je l'ai senti, je ne sais pas pourquoi, mais il est devenu en dracar, j'imagine.
Il est garé en double fil devant.
Non, d'accord, effectivement. Donc, alors on peut voir la conférence qui a été mise en ligne donc, ce matin à 10h, mais qu'on peut revoir comme on veut, en fait.
Alors, on a privilégié la dimension humaine aussi, puisque, comme on l'a expliqué tout à l'heure, c'est une aventure humaine aussi, qui est transversale entre la science, l'artisanat et l'art. Et on a mis en avant aussi pas mal les acteurs avec des vidéocapsules des différents intervenants qui nous expliquent ce qu'ils vont faire, en fait. Donc, dans cette exposition, on rentre. Donc, déjà, il y a un espace qui a été superbement reconstitué. On voit les textures au sol et tout. C'est assez bluffant. Et il y a tout un tas de photos, en fait, qui sont organisées sur les différents murs, sur lesquels on peut cliquer avec un descriptif, bien sûr. Mais il y a une vidéo aussi qui apparaît avec la personne qui nous explique ce qu'elle a fait dans ce projet-là, dans une capsule assez courte. Donc, il y a également la possibilité d'écouter la musique qu'on a entendue tout à l'heure, donc The Dragon and the Dove, avec l'ensemble de l'équipe de composition et avec tout l'explicatif un petit peu de tout ça. Et il y a donc les deux éléments 3D, c'est-à-dire la lyre que l'on peut manipuler en 3D pour l'avoir de près.
Ouais, c'est bien, ça nous
expliquait. Et puis donc le chevalet avec la conférence qui va faire un petit peu le fil conducteur sur toute cette aventure-là, quoi.
Donc là, on peut y aller tout à l'heure, là.
Tout à fait. Alors il y a deux façons. Via une URL, donc on clique simplement et ça ouvre en fait une visite 360. Alors ceux qui connaissent pas, c'est un petit peu l'expérience qu'on peut vivre sur Google Maps avec donc les espèces de bulles qu'on a quand on se déplace sur la carte. Et il existe une autre façon que l'on peut télécharger et là c'est encore plus immersif du coup. C'est véritablement comme un jeu vidéo avec un rendu réaliste qui va encore au-delà, quoi. Et là, on est entièrement libre de se déplacer comme on en a envie. Comme Lara Croft.
Alors ça, comme Lara Croft, d'accord. La ressemblance est frappante.
Ah oui.
Et donc,
c'est pour ça que je l'aime autant.
Bien sûr. Alors donc, il y a cette possibilité. Ça, c'est le présent. Et puis l'avenir. Alors j'imagine que vous n'allez pas vous arrêter de bosser maintenant.
Non. Il y a des projets qui sont déjà en marche. La prochaine mission qui s'appelle l'opération Spire, donc l'opération Lance, va se dérouler donc le 6 juillet donc à Paris. Et là, on va s'intéresser à un artefact qui a été retrouvé dans la CP. Culture 192 de la nécropole de Bobigny. Il s'agit d'un personnage qui date du 3e siècle avant Jésus-Christ. Et dans cette sépulture, il y avait donc ce personnage sacré. Alors vraisemblablement, lançons le mot, peut-être un druide, en tout cas qui a une fonction qui s'inscrit dans le sacré. Et avec ce personnage, il y avait donc une lance musicale qu'on appelait la lance tintante et qui était donc qu'on appelle un idiophone. Alors c'est pas très beau comme nom, mais ça commence mal. Et c'est quelque chose qui va produire du son par lui-même, comme un hochet, comme un sistre quelque part, et qui certainement s'inscrit dans une rituelique un petit peu comme un crécelle, un petit peu aussi, un petit peu comme ça. Et de l'autre côté, il y avait également un cercle qui a été interprété à l'époque comme étant un collier et qui est possiblement un cercle de tambour. Donc on aurait un guerrier musical, un guerrier chaman quelque part, avec sa lance musicale et son bouclier tambour. Et l'idée de cette mission va être de s'intéresser de plus près donc à tous ces objets et essayer de leur proposer une nouvelle lecture grâce aux nouvelles technologies, un peu dans l'esprit.
Mais ce qu'on évoquait tout à l'heure pour ce qui a déjà été fait,
tout
maintenant
à fait.
On l'applique à autre chose.
Quoi. Absolument, et toujours avec les mêmes acteurs et de nouveau également. Donc Real Capture va nous accompagner donc sur ce travail-là de numérisation et de rendu photo réaliste avec...
Sébastien, je croyais peinard, pas du tout.
On le lâche plus. Et on continue donc du coup avec derrière tout un travail de restitution qui se fera par la suite pour présenter bien sûr au grand public le résultat de cette belle aventure qui s'annonce. Et ça sera également suivi sur les réseaux avec le youtubeur d'histoire appliquée Thibaut Icarius, avec donc du coup tout un reportage qui retracera l'aventure donc de cette nouvelle aventure scientifique.
Voilà, ça c'est donc l'avenir à court terme, hein, ça commence en juillet. Donc,
complètement.
Effectivement. Et puis en attendant, musique, alors on écoute Harbard avec Los Caleras, et puis on se retrouve juste après pour les adieux, si j'ose dire. que les restes Arbarde sur France Bleu, Braise Isel.
16h-18h, Braise au pluriel, Michel Pagès.
On arrive au terme de ce numéro de Braise au pluriel. Il me reste à remercier tous ceux qui ont participé à cette dernière heure. Il y a Audrey Lecorne, il y a Sébastien Salin de Real Catcher, et puis il y a Julien Cuvilliez. Julien, un tout dernier mot, tu te lances dans une composition d'une musique pour un film à venir?
Tout à fait, je rejoins les équipes du film Ennemi de Rome, qui finira certainement sur Netflix ou Amazon Prime, un film de Nicolas Van Beveren, et je rejoins donc Aurélien Bianco sur la composition de la bande originale. Vous pouvez retrouver les nouveaux titres d'Arbarde.
Qui parle de quoi? C'est quelle histoire?
C'est l'histoire de Vercingétorix.
Ah bah voyez, ça y est, t'as à nouveau le look qui correspond au sujet. Merci, je vous demande d'être venu en direct sur France Bleu, Braise Isel.
France Bleu, Braise Isel.